Trouvez votre rendez-vous Mon Corps, Ma Vie avec Hicham Benabastarji, gynécologue obstétricien à Casablanca. Il est avec nous dans le studio. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous le disions tout à l'heure, on s'intéresse aux aménorrhées primaires. Et pour vous, auditeurs, vous pouvez réagir et poser vos questions à tout moment. Ne l'oubliez pas sur l'application Lux Radio.
Alors on a déjà eu l'occasion de l'indiquer lors de nos rendez-vous hebdomadaires. Hein, l'aménorrhée définit l'absence d'écoulement menstruel. Hein, chez une femme en âge d'être réglée. Alors, par la force des choses, cette aménorrhée donc peut être primaire ou secondaire. Alors, on s'intéresse aujourd'hui aux aménorrhées primaires, à l'absence de l'apparition des premières règles. Alors déjà, à partir de quand est-ce qu'il faut s'en inquiéter, car les jeunes filles n'ont pas toutes leurs premières règles au même âge?
Ben justement, les règles, c'est juste un signe de puberté, je dirais, entre guillemets. Donc normalement, ça doit venir vers 12, 13, 14 ans. Il faudrait peut-être s'inquiéter à partir du moment où, quand vous avez 16 ans, sans jamais eu de règles. Alors, il faut comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de causes, mais c'est anormal de ne pas avoir ces règles avant 13 ans.
Et est-ce qu'il faut être, 16 ans. Est-ce qu'il faut être vigilant qu'à ces aménorrhées comme signe de puberté, ou est-ce qu'il faut aussi suivre, par exemple, le développement mammaire?
Ben, tout est très bonne question. En fait, l'aménorrhée, donc, c'est quoi les règles? Les règles, ça veut dire juste, c'est l'aboutissement d'un cycle ovarien, ça veut dire c'est l'aboutissement d'une puberté, un début d'une puberté. Les règles, c'est le saignement d'un endomètre qui a grandi avec les hormones ovariennes, sous le contrôle de l'hypothalamus, c'est une glande au niveau du cerveau. Donc si vous avez vos règles, c'est que toute cette machine, ces trois axes hypothalamo, hypophyso, ovarien et utérin, marche. D'accord. Donc l'absence de règles, pourquoi? Est-ce que c'est un problème de malformation utérine ou des voies génitales qui fait que ça n'y est pas, ou bien est-ce que c'est un problème au niveau de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien? Ça veut dire que les gonades ne fonctionnent pas. Et si les gonades ne fonctionnent pas, s'il n'y a pas d'œstrogène et de progestérone, justement, il n'y aura pas de développement des caractères sexuels secondaires. Et donc, le fait, la première des choses qu'on va voir chez une aménorrhée, chez une jeune fille qui n'a pas encore ses règles, justement, est-ce qu'elle a d'autres signes de puberté, le développement des caractères sexuels secondaires? Mmh. Les seins, la pilosité.
D'accord, donc... pour résumer, il faut être vigilant aux signes de la puberté, déjà de manière extérieure, on va dire.
Ben justement, les seins ne vont pas se développer tout de suite, tout de go. Vous ne passez pas de 8 ans bonnet 0 à 13 ans bonnet 4. Non, ça se passe en différentes étapes. Il y a un pré-développement des seins, il y a un bourgeon mammaire qui apparaît. Et donc, une fille de 13 ans qui n'a pas du tout de signe de développement, de début de développement des seins, on peut se dire « Ah, mais c'est un peu anormal ».
Avec l'absence de règles.
Sans les règles. Sans... Justement, dès 13 ans, vous voyez qu'elle n'a pas encore de développement des seins, parce que les hormones... arrive avant, la sécrétion d'hormones qui va développer le sein, arrive bien avant les règles.
Mais c'est juste qu'il y a aussi des femmes adultes qui n'ont pas forcément des seins développés et pour autant ce n'est pas,
tout à fait.
Dérangeant.
Mais elles vont avoir un mamelon développé, d'autres signes, elle va avoir une pilosité développée, il y a d'autres signes particuliers.
D'accord. Alors, à quoi est due cette aménorrhée primaire? Quelles en sont les causes? Et est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques?
Il y a sûrement des prédispositions génétiques. Alors, juste pour schématiser, d'abord, on va parler, est-ce qu'il y a une aménorrhée primaire douloureuse ou non douloureuse?
D'accord.
Douloureuse, c'est pourquoi il y a douleur? Très probablement parce qu'il y a un obstacle. D'accord? Et généralement, là, quand elle est douloureuse, c'est du sang qui ne sort pas et c'est lui qui fait mal. Et là, on va chercher des malformations vaginales. Quelque chose qui est pas très fréquent, mais quand même qui le fait, c'est un hymen imperforé. Des fois, vous avez l'hymen, tout simplement, qui n'est pas troué, donc il n'y a pas d'écoulement de sang. Et c'est pour ça que ce sang est là, les règles sont là, mais elles n'arrivent pas à s'évacuer parce que justement, il n'y a pas d'hymen. Deuxièmement, il peut y avoir des malformations vaginales, et c'est ce sang-là qui ne trouve pas comment sortir qui va faire. Donc on va voir entre malformations, donc je vous dis aménorrhée douloureuse, où le diagnostic est assez facile parce qu'on va faire un examen clinique, on va faire éventuellement un toucher rectal et on va demander une échographie ou une IRM qui va faire le diagnostic. Et si c'est des malformations, on peut opérer. D'accord,
d'accord.
Après, il y a les malformations, les aménorrhées non douloureuses. Et c'est là qu'on va voir, est-ce qu'il y a des caractères sexuels secondaires présents qui sont liés, donc je dis, aux hormones. Est-ce qu'il y a un développement des seins? Est-ce qu'il y a un développement de la pilosité type féminine ou autre. Est-ce qu'il y a un développement de la vulve et des grandes lèvres et du clitoris? Parce que s'il y a ces signes-là de caractère sexuel secondaire qui sont développés, c'est-à-dire qu'il y a une sécrétion hormonale, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement ovarien normal et que c'est un problème défecteur de l'utérus qui ne sort pas les règles. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'utérus? Vous pouvez avoir le cerveau est bien développé, l'axe hypothalamo hypophysaire qui est bien, les ovaires qui fonctionnent bien, mais il peut y avoir une absence d'utérus. Ouais.
Mais ça, généralement, on le sait, on s'en rend compte peut-être plus tôt.
Non, l'absence d'utérus. Non, justement, non. On peut pas, on va pas chercher, on va pas faire une échographie à toute jeune fille à 8 ans, 9 ans, comme ça, de manière systématique. Non, on se rend compte justement qu'il n'y a pas d'utérus parce que la fille ne saigne pas. D'accord? Il peut y avoir aussi quelque chose qui est peu fréquent, mais qui est quand même dérangeant, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Rokitansky-Meyer-Öster, où c'est une atrophie de l'utérus et du vagin, et cette fille sera gênée pour sa vie maritale parce qu'elle ne pourra pas avoir d'activité sexuelle. Mm-hmm. C'est un problème.
Alors justement, comment stimuler l'apparition des premières règles? Est-ce qu'un traitement existe?
Non, votre question est trop... Je dirais, vous sautez rapidement. Il faut d'abord faire une étiologie.
J'imagine
pourquoi.
Qu'une fois que le diagnostic est posé, qu'on en définit la cause, il y a un traitement qui est aussi proposé.
Oui, justement, mais il faut savoir quel est le problème. Je vous dis, est-ce qu'il y a une malformation utérine ou vaginale?
D'accord, on a bien compris. C'est ça,
on va l'opérer. Après, si, est-ce que c'est pas un problème de malformation utérine? Après, si il n'y a pas de signe d'imprégnation hormonale, c'est-à-dire que c'est l'ovaire qui ne fonctionne pas bien. Et à ce moment-là, pourquoi l'ovaire ou l'hypophyse qui ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire la commande de l'ovaire. Là, on va faire des dosages hormonaux. On peut faire la FSH-LH, c'est des hormones de l'hypophyse qui normalement sont là pour sécréter, pour stimuler les ovaires, pour produire des œstrogènes. Si LH et FSH sont basses, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème d'ovaire, c'est un problème de la commande centrale. Est-ce que c'est pas un problème de puberté tardive, d'impubérisme? D'accord? C'est-à-dire que le problème, il est en haut, et donc il n'y a pas la commande qui, la FSH-LH, qui va stimuler les ovaires pour produire les hormones pour que l'utérus réagisse et fasse ses règles.
Je comprends bien qu'il y a plusieurs causes.
Oui.
Donc j'imagine qu'il y a aussi plusieurs traitements.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Mais c'était pour ça que je vous posais cette question de comment... Parce que la problématique, c'est l'absence d'aménorrhée. Donc à un moment donné... Enfin, c'est l'aménorrhée, pardon, l'absence de règles et cette aménorrhée. Donc, à un moment donné, il faut l'enjeu aussi de les stimuler, l'apparition de ces premières règles.
Mais ça dépend. Je veux dire, je vous dis, si vous avez
une femme peut vivre sans règles toute
sa vie. C'est pas grave. C'est pas grave si elle vit sans règles. Le problème, c'est qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Voilà la conséquence. Mais je veux dire, si c'est un problème d'utérus, eh ben, vous pouvez stimuler ce que vous voulez, vous n'aurez pas de règles. Et c'est pas le but de ne pas forcément d'avoir des règles. Le but, c'est de comprendre pourquoi et savoir est-ce que... Alors, il y a des fois des malformations génétiques. Il y a le syndrome de Turner qui est, en fait, c'est une malformation génétique où il manque un X, ce qu'on appelle un 45X0. Il manque un X, c'est une femme, je dirais, avec un X en moins. Et là, elles ont des atrophies ovariennes où l'ovaire ne marche pas bien. Et d'accord. Donc, vous pouvez la stimuler, mais déjà, vous la préparez en disant vous risquez de ne pas avoir d'enfant par la suite. Il peut y avoir ce qu'on appelle des malformations, c'est pas génétique, mais ce qu'on appelle le testicule féminisant, où il y a un problème de gène des récepteurs aux androgènes. C'est-à-dire que c'est un garçon, mais comme il n'y a pas de récepteurs aux androgènes, la testostérone n'agit pas. L'effecteur, je veux dire le récepteur de la testostérone n'agit pas. Et donc, c'est comme si elle n'avait pas de testostérone. Et donc, il y a un morphotype féminin, d'accord ? Là, qui n'est pas vraiment développé, mais quand on fait un caryotype génétique, on découvre que c'est un garçon, ce qu'on appelle le testicule féminisant. Il peut y avoir des problèmes de retard pubertaire, je vous dis, ou tout simplement parce qu'il y a des comportements psychiques particuliers, où la fille est en anorexie, elle ne mange pas beaucoup. Par exemple, un des critères pour avoir ses règles, les gens ne le savent pas forcément, mais il faut au moins peser 35 kilos. Quand vous pesez moins de 35 kilos, bah, y a un effet sur le corps qui fait qu'il n'y a même pas la commande centrale. D'accord? Donc ça peut être juste un retard pubertaire simple. On peut attendre quelques mois, quelques années, et on va voir que c'est juste retardé. Mais il peut y avoir ce qu'on appelle aussi un impubérisme. C'est-à-dire, elle a un trouble de la puberté, j'espère qu'on le fera une autre fois, pour parler des pubertés tardives. Il peut y avoir un problème d'encéphalite ou de tumeur cérébrale, de tumeur de l'hypophyse, qui va entraîner des problèmes de la stimulation centrale.
Bon, il y a une multitude de causes possibles.
Multitude de causes. Et donc, multitude de causes, multitude de traitements. D'accord? Le traitement, on peut le schématiser simplement, je vous dis, il faut bien sûr connaître la cause. Mais si c'est juste pour avoir des règles, on peut donner une pilule. La pilule, c'est un apport d'œstrogène et de progestérone exogène, donc qui va, si l'utérus est là, développer l'endomètre et donner des règles. Mais quel est le but juste d'avoir des règles,
c'est pas... Non, mais c'est pour savoir aussi quelles sont les causes principales, les plus récurrentes, parce que oui, dans tout ce que vous parlez, il y a aussi des causes très très rares. Donc finalement, quelles sont les causes les plus fréquentes et ce à quoi un gynécologue est le plus souvent...
Tout à fait. Alors, les causes les plus fréquentes, c'est d'abord, donc je vous dis, les malformations utérines, imperforations hyménéales, problème de malformation utérine, les causes de syndrome de Turner, donc 45X0, où il y a un problème d'ovaire qui ne marche pas, les causes donc de testicules féminisés, c'est pas aussi rare que ça, je veux dire, 1 pour 1000 femmes, je pense, testicules ou garçons. Il y a ça, il y a ce qu'on appelle l'hyperplasie congénitale des surrénales, qui peut aussi survenir dans des cas modérés. On peut la découvrir à l'âge adulte, où c'est des problèmes de génétiques qui vont... Il n'y a pas des gènes pour certaines enzymes qui vont transformer les hormones. Après, les autres causes, je dis, il peut y avoir un problème de retard pubertaire simple qui va donc lier à une atteinte de centrale.
Donc, en cas d'aménorrhée primaire, il faut consulter pour se faire une idée précise de la cause.
Tout à fait. Il faut consulter dès 15 ans, 16 ans, si vous remarquez qu'elle n'a pas ses règles et qu'elle n'a pas de développement des seins, de sa vulve. Il faut aller voir un gynécologue ou un endocrinologue pédiatre.
Alors, Hicham Ben Abastargi, vous l'avez aussi sous-entendu, une jeune fille atteinte d'aménorrhée primaire peut, plus tard dans sa vie de femme, avoir des difficultés à avoir un enfant. Et c'est là où, quelque part, où le bât blesse. Il y a un impact, donc, sur la fertilité.
Mais bien sûr, parce que, mais encore une fois, ça dépend de la cause. Je dis, les syndromes de Turner, c'est des malformations génétiques qui sont pas aussi rares que ça, eh ben il y a un problème parce que son ovaire ne marche pas bien. Il y a des grossesses spontanées, ça reste exceptionnel.
Alors dans le cas où on a bien compris, hein, si la machine, on va dire, il n'y a pas tous les éléments, forcément ça va pas être possible dans la conception. Mais si on va dire que une jeune fille a une aménorrhée primaire, que finalement le traitement, on va dire, c'était des hormones, ce genre de choses. Est-ce que même dans ce cas-là, elle a son utérus, tout fonctionne, l'ovaire, tout fonctionne après. Est-ce qu'il y a quand même, dans ce cas-là, un impact sur la fertilité?
Alors justement, par exemple, dans les aménorrhées d'origine centrale, c'est-à-dire c'est un problème de la commande qui va commander l'ovaire et qui va commander l'utérus. Eh bien, on peut donner, comme une stimulation d'une femme qui a une infertilité adulte, on peut lui donner des gonadotrophines, FSH, LH, pour stimuler ses ovaires de telle manière à faire grandir des follicules et donc les féconder avec le sperme de son mari. Donc, encore une fois, ça dépend de la cause, mais il peut y avoir des solutions quand ce n'est pas un problème d'utérus ou quand ce n'est pas un problème d'ovaire. Quand vous n'avez pas d'utérus, on peut pas encore transformer d'utérus. Alors, bon, bonne nouvelle, peut-être. Vous savez, on a déjà greffé des utérus maintenant. Ça commence à se faire. Et il y a même eu des femmes greffées d'utérus qui ont déjà accouché.
Oui.
Donc, dans l'avenir, dans les 10 ans, 20 ans, peut-être qu'on greffera des utérus et qu'on pourra faire cela. Pour l'insuffisance ovarienne prématurée, malheureusement, le don d'ovocytes est interdit dans notre religion. Donc, on ne peut pas donner des ovocytes d'une autre femme. Ça serait la solution, mais donc là, on ne pourra pas le faire. D'accord?
D'accord.
Et si c'est des problèmes de commande centrale, je vous dis de l'hypophyse ou de l'hypothalamus, il y a des stimulations pour pouvoir avoir des enfants. Oui.
D'accord, très bien. Hicham Ben Abastargi, merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. On en sait un peu plus désormais sur les aménorrhées primaires. Et sachez que vous pouvez justement retrouver cette interview dans son intégralité en podcast sur l'application Lux Radio.